Agora Côte d'Azur présente Les copains d'abord.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur, votre rendez-vous mensuel dédié à la bonne humeur. C'est le moment pour vous de relâcher la pression, d'oublier vos petits tracas de la journée, de vous offrir une petite heure de positive attitude en notre compagnie. Au programme de ce soir, des chroniques pour vous faire sourire, rire, on l'espère, mais aussi pour apprendre plein de choses. Et pour cette dernière émission de l'année, on a décidé de vous gâter. C'est un petit peu Noël avant l'heure, car nous avons l'honneur de recevoir un invité tout à fait exceptionnel. Ancien juré de La Nouvelle Star, on est obligé de le mentionner, surtout créateur, producteur des plus grandes comédies musicales françaises. Il est à l'origine de spectacles inoubliables qui ont marqué des générations. Et cet invité, c'est Monsieur Dovatia. Bonsoir Dove.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah bah non, franchement. Comme le disait Thierry Roland, après ça on peut mourir tranquille, hein, mais le plus tard possible. Du coup, j'ai quand même dire bonsoir à mon équipe qui m'accompagne, Carole et Léa. Bonsoir les filles.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir?
Carole commence.
Mais écoute, nous, on va commencer par une interview avec Léa pour interviewer notre magnifique invité de ce jour, Dovatia.
Eh ben, les superlatifs ce soir, ils vont... Hein,
ça va y aller.
Ça va y aller. Hein.
Ça va envoyer du bois. Alors ce soir, dans le Pourquoi pas de Léa, nous plongerons dans l'univers des comédies musicales et des personnages historiques. L'idée, découvrir l'histoire derrière ces figures emblématiques de la France.
Magnifique. Bonsoir, mon David.
Coucou à tous.
Salut David, un petit peu
de conversation. On t'a pas réveillé, j'espère pas.
Parce que je me suis couché tard. Alors ce soir, laissons entrer le soleil.
Oula.
Puisque nous allons parler de Louis XIV.
Ok, belle entrée en matière David, on a hâte de t'écouter.
J'espère, oui.
Côté musique, on vous a réservé une belle surprise, des titres phares, des comédies musicales qui ont marqué l'histoire évidemment. Restez avec nous, on se retrouve juste après avec David et son voyage au bout des mots.
Ce soir, dans Les copains d'abord. David dans Voyage au bout des mots.
Ce soir, nous mettons la lumière sur une personne qui a brillé avant même que l'électricité existe. Oui, je vous parle de Louis XIV, le roi soleil, qui devint roi à 5 ans. À cet âge, normalement, on apprend à sauter à la corde ou à faire du vélo. Non. Lui, il apprend à faire tourner un royaume, mais attention, pas tout seul. Anne, ma sœur Anne d'Autriche, ne vois-tu rien venir? Elle fit diligence en prenant la régence. Son enfance n'avait rien d'une partie de plaisir. Oui. Et lui, et Dieudonné, devait jongler entre tirer la fronde des nobles, qui jouaient à rebelle-rebelle avec sa couronne, bien avant Bowie.
Si tu veux, tu tournes les feuilles. Hein,
y a pas de et la famine.
C'est-à-dire,
j'ai plus dur en même temps, tu vois. Bien avant Bowie, et la famine dans le royaume, ce qui, avouons-le, n'était pas gagné. Mais bon, Louis est un roi qui ne craint aucune mazarinade, ni la mort qu'il frôle à plusieurs reprises dès sa plus tendre enfance. On l'appelait le roi soleil parce qu'il a inventé la monarchie de droit du vin, car la dive bouteille n'était jamais loin à Versailles. Un jour qu'une porte était fermée par un huissier, il se serait écrié « L'État, c'est moi !» Cette phrase inspirera Jean-Luc Mélenchon quelques siècles plus tard. Si la photographie avait existé, le roi soleil aurait été instagrammable tant son image était universelle. Et attention, sa story a duré 72 ans. Et si Versailles m'était compté? Des jardins qui donnent envie de savoir si on prend le nôtre ou le vôtre. Et des salles qui feraient passer le géant du meuble suédois pour une brocante. Tiens, lui la brocante, ça aurait sonné pas mal, non? Mais tout ça avait un coût, surtout quand il fallait nettoyer à grandes eaux. La galerie des glaces, une idée de génie. Louis l'a créé pour que ses courtisans puissent voir à quel point ils étaient effacés par sa beauté. Miroir, mon beau miroir. Et puis un bourbon glace, c'est toujours bon, avec modération, bien entendu. Côté cœur, Louis, c'était le soleil dans tous les sens. Un homme brûlant. Madame de Montespan, Madame de Maintenon, Mesdames tout court. Si elle passait à Versailles, jupons et corsets finissaient dans son lit. On parlait alors de soleil couchant. L'appendice de Louis était toujours au zénith. Il avait tellement d'aventures que Casanova se suicida quand il tomba sur son répertoire. Mais attention, la cour de Louis XIV, c'était aussi la version hystérique de Sous le soleil exactement. Entre les disputes et les duels, chaque journée à Versailles, c'était un épisode des feux de l'amour. Louis, c'était aussi un gars qui aimait faire la guerre. Il a tellement embêté ses voisins espagnols ou hollandais qu'ils ont fini par créer une coalition parasol. Louis XIV a tout de même réussi à agrandir la France dans ses frontières quasi actuelles. Il ne faut pas non plus oublier que Louis XIV était un fan VIP, un vrai mécène pour Racine, Boileau et bien entendu Molière. D'ailleurs, tout ne pouvait que fonctionner entre un homme de théâtre lumineux et un roi qualifié de soleil. Ils partageaient tous les deux le pouvoir, la vis comica, le pouvoir de faire rire pour Molière et le pouvoir absolu pour le roi. Molière a grandi dans une famille de tapissiers. Son père couvrait les murs. Molière, lui, a décidé de lever le rideau, pas de le coudre. Et heureusement, parce que sinon aujourd'hui, on aurait des rideaux Poquelin au lieu des Feuchstein de The Legend qu'on connaît. En tout cas, ça a marché. Avec Séguéla comme publicitaire, Molière, ça sonne bien et ça claque. Simple et efficace. Molière rencontre le roi qui lui ouvre une fenêtre sur cour où il raille les courtisans. Louis XIV finançait les pièces, leur donnait une scène et surtout, il protégeait Molière des censeurs. Il faut dire que Molière en a fait plus pour le théâtre que les fontaines à champagne en ont fait pour les mariages. C'était le génie des planches, le patron du LOL, en alexandrin, en vert et contre tous. Il ne faut pas oublier que pour faire danser le roi et la cour, Molière avait un complice. Il était très connu, le bebop à Lully, ou le royal tango. Molière, c'est l'homme qui a inventé le théâtre comique moderne. Avant lui, le théâtre, c'était surtout des tragédies où tout le monde mourait à la fin. Lui, il arrive avec ses comédies et là, c'est la révolution. Il prend les défauts des gens, il les exagère et boum, ça fait une pièce. T'es radin, ça devient l'avare. T'es hypocrite, hop, le tartuffe. Tu es hypochondriaque, le malade imaginaire. Molière, fan de Dalila, voulait mourir sur scène devant les projecteurs. Mais non.
Que de talent.
Il mourut chez lui dans son lit. Ouais. Aujourd'hui, ces pièces sont toujours d'actualité. L'avare, Harpagon, c'est ton ami qui plante tes tickets resto dans son tiroir. Le malade imaginaire, ben c'est toi qui regardes tes symptômes sur Google. Le tartuffe, c'est le gars qui te fait la morale, mais qui triche sur les impôts. Bref, Molière, c'est intemporel. Mais revenons à notre Bourbon. Finalement, après 72 ans de règne, il a même battu The Queen. Louis XIV s'éteint comme une ampoule basse consommation. Il laisse derrière lui un royaume magnifique mais ruiné. Des courtisans orphelins chantant « il est mort le soleil
!» Belle tentative, belle tentative.
Belle, là. Pas pour les plus jeunes, mais bon. Parfum de poudre en glorifiant Vauban et l'arrière-ban. D'ailleurs, quand Louis XIV est mort, certains ont cru à une disparition. Mais non, c'était juste le roi qui baissait le rideau, car son héritage est immense. Alors voilà, Louis XIV, c'est plus qu'un roi, c'est un mythe, un astre, qui a laissé la France couverte de dettes, mais moins que Bruno Le Maire, et surtout, pleine d'éclat. Allez, sur ces mots scintillants, je vous laisse. Moi, je vais relire les fourberies de Scapin, parce que franchement, que diable suis-je allé faire dans cette galère ?
Eh bien, on se demande.
Merci.
Bravo, mon David.
C'est beau, hein ? Pour tout comprendre, il faut avoir une culture
générale, oui.
Ah,
oui,
tout le monde.
C'est réservé à l'élite de nos auditeurs. Ah, oui. Tu as bien fait le
stimuler. Le jeu de mots est très fin, bravo. Ah, hein.
Merci.
Combien de temps vous pouvez écrire tout ça ?
Un petit peu. Je fais comme vous, je vais regarder un peu l'histoire.
Un peu le liant.
Voilà, l'histoire de l'un, de l'autre.
Merci beaucoup, David.
Bravo.
Alors, sans plus tarder, et avant de retrouver un sort, un destin, avec Léa et Carole consacrés à notre invité Dovatia, on écoute le titre « Rêver, j'en ai l'habitude », issu de la comédie musicale Molière, l'opéra urbain. A tout de suite, les amis.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Les autres, ils sont comme il faut. Je fais ce qu'il faut pour leur plaire, mais ça sonne faux. Pas ma faute, ma faute, si je suis mieux dans ma peau. Loin de la lumière et derrière le rideau. Ma terre à moi n'est pas ronde, je n'ai pas la bonne attitude. Je ne suis pas fait pour ce monde. Oui, rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude. Vivre sous d'autres latitudes. Pour me libérer de ma lassitude. les autres, ils ont dans les yeux l'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute de tout faire comme eux, mais n'est pas toujours heureux celui qui veut. Je veux jouer tous les rôles, essayer tous les costumes, les plus sombres et les plus drôles. Oui, rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude, vivre sous d'autres latitudes, me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude.
Côté court, je joue la comédie humaine. Côté cœur, j'avoue, j'ai pas me mettre en scène. Dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude.
Rêver, j'en ai l'habitude.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'Abord sur Agora Côte d'Azur.
Vous êtes toujours sur Radio Agora Côte d'Azur et tout de suite, place à l'interview avec Léa et Carole, avec un superbe invité ce soir.
Et Dove, effectivement, qui est dans nos studios. Bonsoir, Dove rebonsoir.
Bonsoir Léa.
Alors, je le rappelle à nos auditeurs, tu es une figure incontournable de la scène musicale française, producteur, créateur, visionnaire. Tu as marqué des générations avec des comédies musicales devenues cultes, comme Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock, 1789, Les Amants de la Bastille, La Légende du Roi Arthur, Molière, l'Opéra Urbain, et j'en passe. Ancien élève de Polytechnique, tu as troqué les équations pour la magie des planches, transformant ta passion en spectacle grandiose qui allie histoire, émotion, innovation et transformation, bien avant de conquérir le cœur des spectateurs. Tu as aussi été créateur d'un institut de préparation aux grandes écoles, directeur général à TF1 International, juré de la Nouvelle Star, Thierry le disait tout à l'heure, sans oublier ta participation à l'écriture de scénarios, toujours à la recherche de nouveaux défis et de nouveaux talents. Tu continues de repousser les limites de l'art musical et de la créativité. Sois le bienvenu.
Merci, c'est joli. Il y a toute la vie en...
Alors bonsoir, on a paragraphé. Carole, bonsoir, pardon.
Bonsoir, à bientôt, à l'année prochaine.
Alors, enfant ou adolescent, savais-tu déjà que la musique et le spectacle seraient au cœur de ta vie? Et est-ce qu'il y a eu un moment clé ou une révélation qui t'a mis sur cette voie?
En fait, il n'y a pas eu de moment clé, c'est que enfant, ma mère chantait tout le temps, chantait du Dalida. J'ai grandi avec une maman qui chantait.
Ouais.
Et puis, je suis tombé amoureux de la musique. Et puis, à 15 ans, j'ai fait un concours, j'ai gagné une guitare. Et comme j'avais une très mauvaise mémoire musicale et autre, ouais, et ben quand je rechantais les chansons, que j'essayais de jouer, ben personne ne reconnaissait la mélodie. On me disait, mais non, c'est une nouvelle mélodie. En fait, j'étais en train de composer des chansons sans le savoir. Alors, parce que je n'arrivais pas à me rappeler les mélodies. Et ce qui est terrible, toutes les chansons que j'ai écrites pour mes colonies musicales, je ne me souviens ni des textes. Ma fille, par contre, connaît les textes.
C'est moi. Incroyable, ça.
Je ne me souviens pas de tous les textes, ni des mélodies. Alors, je peux chanter, mais je ne me souviens plus de la mélodie. Et c'est, j'ai un problème de mémoire.
Un jour, tu vas aller à ton spectacle et
ton
tu vas oublier que c'est toi qui l'as.
Oui, tu vas découvrir ton propre spectacle.
Ça me rassure, je me dis, c'est pas Alzheimer, parce que sinon, j'ai eu Alzheimer depuis l'âge de 10 ans. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris, et puis je suis tombé amoureux de la musique. Mais le problème, c'est que j'ai fait mes études et passe le bac. D'abord, j'ai passé le bac et puis j'ai hésité entre médecine et j'étais inscrit à médecine et à maths sup. Médecine, ma grand-mère a un accident est renversée par un camion. Je vais à l'hôpital pour la première fois de ma vie. Je passe devant une chambre, je vois des tubes comme ça. Et là, j'ai un malaise vagal terrible.
Mais, le choc.
Ah, le choc. Et j'ai fait plein de malaises vagaux. Mm. Oui, médecine, c'est pas pour moi. Okay. Donc j'ai fait ma tube et puis voilà. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai réussi Polytechnique, mais je ne voulais pas, après Polytechnique, rentrer dans une entreprise parce que je voulais faire de la musique. Donc j'ai fait de l'enseignement. Parce que l'enseignement, je le dis, ça laisse beaucoup de temps libre. J'avais même 3 classes en même temps. J'avais les 6e, 5e et terminale en maths.
Ouais, donc ce désir de transmettre.
J'ai adoré l'enseignement. J'ai enseigné pendant 12 ou 13 ans. J'ai adoré. J'ai même créé un institut où je préparais avec les petits cours. J'ai inventé des cours de méthodologie à l'époque. Ouais. Et j'adore l'enseignement jusqu'au jour où j'ai rencontré mon ami qui est de mon associé Albert, avec qui on a commencé à faire des cassettes vidéo. J'ai eu l'honneur de travailler avec Léon Zitron, un grand monsieur. On a créé des étoiles. On avait inventé des cassettes de foot, l'épopée des Bleus, Gignola, Cantona. On avait sorti plein de cassettes de foot. Et voilà. Et puis, après, je suis rentré à TF1, après, dans la high-tech. Et puis, jusqu'au jour où Albert, c'est lui le premier. On était, je me rappelle, au Flore. Et tous les jours, il avait une idée. Un jour, il me dit, et si on faisait une comédie musicale avec les 10 commandements? Et là, j'ai dit, d'habitude, des idées. À chaque fois, je lui disais, non, ça, c'est bien, pas bien. Et là, j'ai vu Moïse au Palais des Sports. Je suis, waouh, c'est génial.
Mais en fait, c'est un petit peu la question qui suivait, parce que justement, tu viens d'un tout autre domaine.
Ouais.
Et la question, c'est justement ça, cette transition vers le monde du spectacle et de la musique qui a été un tournant radical dans ta vie. Justement, comment elle s'est opérée?
Alors, je vais faire un peu de philosophie. Moi, je dis toujours, c'est la vie qui te prend par la main.
Oui.
Voilà. Simplement, il faut reconnaître la main.
Tu parles d'opportunité dans...
Voilà, l'opportunité. Ça veut dire qu'en fait, je pense que tout le monde a la même chance dans sa vie.
Tu t'es laissé porter par ton sixième sens, ton instinct?
Oui, mon intuition, toujours. Intuition. Toujours mon intuition.
Et voilà. Tu crois au hasard, du coup? Ou pas du tout?
Alors là, tu vas rentrer dans les croyances spirituelles. Est-ce que...
tu peux ne pas répondre.
Je suis spirituel, donc je suis franc. Hein, je ne crois pas en Dieu. Un Dieu qui a dit, Abraham, fais ça, tue ton fils pour me prouver que tu m'aimes. Non. Je crois à une force spirituelle, je crois à quelque chose autre que le monde matériel.
Donc ce
donc
changement...
Je suis un peu spinozien, si on dit.
Hein. Ouais. C'est ça.
Ouais. Spinoza, voilà. Et donc, la vie te prend par la main. Simplement, il faut être attentif aux mains qu'on te tend.
Donc ce changement a plutôt été une évidence pour toi plutôt qu'un défi.
C'était des opportunités dans la vie et j'ai les saisi et j'ai eu de la chance, le destin m'a guidé. On veut faire toujours, on dit je veux faire ça plus tard, ça plus tard, ça plus tard. Hélas, on ne fait pas ce qu'on veut plus tard. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est un bon conseil pour tout le monde,
ouais,
d'ailleurs.
Il faut avoir des envies, des passions, et puis il faut être attentif aux rencontres. C'est souvent des rencontres, des événements qui font que ta vie change. Il ne faut pas avoir aussi peur de changer de vie.
Mm-hmm.
Parce que moi, j'ai fait 5 métiers ou 6 métiers différents. Ils n'ont rien à voir. Donc, il ne faut pas avoir peur. Alors, évidemment, c'est plus facile de le faire quand on n'a pas de responsabilité familiale.
Mm.
J'ai fait, à un moment, je n'avais pas de responsabilité familiale. C'est beaucoup plus dur quand très jeune, on a des enfants. Là, on est coincé. Prendre des risques quand on a des enfants, c'est plus dur. Donc, la morale, madame, monsieur, mariez-vous tard, les enfants tard. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus les jugements. Une femme, un homme peut faire des enfants à 40 ans, 45, une femme à 35 ans, sans problème.
Bien sûr.
Hein, aujourd'hui, une femme seule n'est plus honteuse. À l'époque de ma mère, une femme ne pouvait pas divorcer. Une femme, elle fait ce qu'elle veut.
Il y a beaucoup plus de liberté aujourd'hui.
Elle travaille et il n'y a plus. Et donc.
Donc pour le réarmement.
Voilà. Mesdames, le pouvoir vous appartient.
Oui, on le veut. Enfin,
simplement, il faut.
Bien entendu.
Réarmement démographique, voilà. Hein, on nous l'a dit là-haut. Hein.
Il faut juste rêver, c'est tout. Rêver et puis être attentif à ce que la vie offre. Après, j'ai eu de la chance, mais tout le monde n'a pas la même chance, donc je le sais.
Oui.
Et c'est une question de chance. S'il n'y avait pas rencontré mon associé ce jour-là, bah, peut-être que j'aurais eu une autre vie. Donc il y a le hasard, oui.
Alors tes spectacles racontent souvent des récits puissants comme dans toutes les comédies musicales, notamment les 10 commandements, Mozart, l'opéra rock et tout récemment Molière. Qu'est-ce qui t'attire dans ces grandes fresques historiques et ces personnages fascinants? Et est-ce que tu y vois un moyen, toi qui le disais, de transmettre un message et un message universel?
Alors, d'abord, je l'ai dit, j'étais enseignant.
Oui,
j'adore
c'est
enseigner.
Pour ça que... voilà.
Donc dans tous mes spectacles, il faut que les enfants, les parents aient appris quelque chose. Donc quand je fais Le Roi Soleil, je raconte l'histoire de Louis XIV en étant fidèle, même romancé, j'enlève plein d'événements, mais l'essentiel de sa vie est lié. Quand je raconte l'histoire de Molière dans Molière, l'opéra urbain, c'est la vraie histoire de Molière, tout est vrai. C'est juste que j'ai oublié certains événements, parce que je ne peux pas raconter en 2 heures je n'ai pas parlé de Corneille, son animosité avec Corneille, ou ce qu'il a fait avec Jean-Baptiste Lully. Il y a plein de choses que j'ai éludées, parce qu'on ne peut pas en deux heures. J'ai préféré raconter moi, mais être plus profonde, pas être superficielle, rentrer dans la force des personnages. J'ai raconté moi, mais je suis fidèle. Mozart, c'est vraiment l'histoire de Mozart. Il dit comment l'histoire de Moïse. 89, c'est l'histoire de la Révolution française. Et donc, j'adore qu'un spectacle divertissant soit aussi utile, qu'on l'enseigne aux gens. Et quand je vois, et je suis récompensé, quand dans la salle, je vois des familles, je vois des grands-parents, je vois Molière, je vois des grands-parents, je vois
c'est
des parents,
toutes les générations,
des enfants,
en fait.
À 8 ans, 7 ans, des enfants qui adorent. Très jeunes, et je me dis, là, j'ai réussi. Après, je suis fasciné par les grands personnages. J'ai toujours eu cette fascination
et
sur ces êtres.
Depuis tout petit
Petit, franchement, je le dis, j'étais fasciné par Napoléon. J'étais fasciné par par Albert Einstein. J'étais fasciné par les Beatles. Et ce sont ces gens qui ont changé
le cours de l'histoire
dans des domaines très différents. Je suis fasciné par les scientifiques, c'est ma formation. Donc je lis beaucoup de revues scientifiques et ceux qui ont, par des inventions, changé le monde. Et puis en plus, dans une comédie musicale, moi ce que j'aime, c'est les grands spectacles. Je préfère voir un costume, un spectacle avec des robes de princesse et des palais de glace, des lustres versaillais, que une deux chevaux avec des costumes cravates sur scène.
Oui.
Voilà, c'est quitte
tu,
à
tu
voir.
Tu veux emmener une époque vraiment sur scène avec et d'ailleurs nous on a assisté à Molière, à ta comédie musicale, et c'est vrai qu'on ressent toute cette époque, elle est retransmise sur scène, et c'est incroyable parce que on est à cette époque.
Ce que je veux, c'est que les gens voyagent dans l'histoire.
Et que ça fasse rêver aussi.
Et puis que les gens apprennent, parce que vous disiez qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, et je pense qu'il doit y avoir des profs aussi, des instituteurs qui doivent venir revoir en disant, voilà, ça nous permet de nous de rentrer et de parler de l'histoire, de faire quelque chose.
Et je peux vous dire des petits détails. Molière, j'ai eu des compliments des gens de la comédie française. Ils m'ont dit merci de vulgariser cet homme qui a un petit côté un peu vieillot, un peu scolaire, de monde moderne, parce que dans Molière, l'opéra humain, ce qui est génial, c'est que Molière est très moderne. Je montre à quel point il est actuel. C'est vrai que la forme est un peu... Parce qu'à l'époque, il y avait des grands monologues. Et le fond de Molière, c'est très actuel. Il n'y aurait pas eu de la comédie française sans Molière. Molière, il n'y aurait pas eu de Phédo sans Molière. Avant Molière, Monsieur David l'a dit très bien, il n'y avait que des tragédies. Il y avait aussi de la comédie, mais c'est de la farce à l'italienne. Ce qui a fait Molière... Molière voulait être un tragédien, il voulait faire de la tragédie. Il était complexé parce qu'il n'était pas doué. Et il admirait Corneille. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la tragédie. Il met la tragédie dans sa comédie. Parce que dans la comédie qui fait rire, qu'on caricature des personnes, il y a un truc très triste sur l'avare, sur Tartuffe, cette personne, ces gens un peu méchants qui ont des obsessions, des phobies. Il y a un côté de tragédie dans sa comédie. Et c'est les grandes comédies françaises. Quand on voit Le Dîner de cons, c'est du Molière.
C'est
la tragédie, c'est ça où la comédie est puissante, c'est quand il y a du fond. Voilà. Donc, j'adore ça. J'adore les grands personnages. J'adore.
Justement, à propos des grands personnages, parmi tous les personnages et époques que tu as adaptés, lequel a été le plus complexe à transposer en comédie musicale et pourquoi ?
La Molière, je dirais. Molière, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup de gens disent que c'est mon plus beau spectacle. Ce qu'on dit, parce que c'est à travers. J'ai travaillé beaucoup.
Et comment tu l'expliques, du coup, ça ?
Alors, pourquoi ? Parce que c'était difficile. Parce que Molière, je ne pouvais pas faire un spectacle comme Le Roi Soleil ou comme. Mozart, je ne pouvais pas faire chanson, dialogue. Parce que Molière, il y a du dialogue. C'est des alexandrins. Donc, j'avais pris le pari qu'il n'y ait pas de dialogue. J'ai pris le pari que Molière, que même l'action, les dialogues se font sur la musique comme du slam. Que ça soit slamé avec des rimes. Et ça soit rythmé, musical. Et donc, il fallait que les dialogues, écrire ces dialogues avec des rimes, avec des alexandrins, et que ça tombe sur les pieds de la musique. Et puis, il fallait raconter... La modernité de ce personnage. C'est un personnage incroyable, Molière. Il faut savoir, c'était un fils de tapissier. Il n'est pas destiné à changer de jour. On parle de langue de Molière. C'était quelqu'un, par amour, il a suivi, il a fait une rupture avec son père, qui a été très douloureuse pour lui et pour le père, pour suivre son grand amour. Et il voulait être tragédien. Et puis ils vont tourner pendant 20 ans, ils jouent parce qu'ils font faillite. Molière va en prison. Parce qu'il n'a pas d'argent pour payer, parce qu'ils ont pris des cautions, il a cautionné des prêts, il va en prison, après ils vont faire des tournées, et dans les tournées, ils jouent, ils amènent des livrets. Mais à l'époque, il n'y avait pas de libraire en province. Donc une fois qu'ils ont épuisé tous les livrets, comment ils allaient faire ? Ben, il s'est dit, j'ai pas le choix, il faut que j'écrive. Il ne voulait pas écrire au début. Lui, il voulait être un grand acteur tragédien. Donc, il a essayé bien à écrire par dépit, parce qu'il fallait qu'il joue des pièces. Et puis, il s'est rendu compte qu'il n'était pas très doué pour la tragédie. Il était mauvais. Il était beaucoup plus doué pour la comédie. Donc, c'est quand c'est la vie qui vous amène. Voilà un exemple. Molière, il n'a jamais dit « Je veux être le plus grand auteur de comédie du siècle ». Non, il n'est pas du tout ça comme idée. Lui, il voulait être un grand acteur, un grand tragédien.
Et est-ce que c'est ce spectacle, du coup, qui te tient le plus à cœur?
Alors non, j'ai trois spectacles qui me tiennent à cœur, franchement, j'ai trois spectacles. J'ai Molière parce que c'est celui où j'ai mis mon cœur, parce que j'ai Mozart, l'opéra, parce que c'est un spectacle magnifique. C'est un spectacle où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de profondeur, parce que sur ce personnage de Mozart, j'espère un jour le ramener en France, parce que c'est un spectacle fabuleux. Là, actuellement, il fait un carton à l'étranger, c'est le plus grand succès en Chine, il a très bien marché en Corée, au Japon. Actuellement, il joue en Chine. Ils ont fait 150 représentations avec un public déchaîné.
Oui, j'ai vu des images, c'est fou.
C'est fou ce qui se passe. C'est un magnifique spectacle. Donc, qui me tient à cœur parce que je me suis beaucoup
investi
dans la musique, l'écriture de la musique dans Mozart. C'est celui où il y a des plus belles chansons. Et après, celui qui me tient à cœur en troisième, et à égalité, c'est le Roi Soleil. Parce que le Roi Soleil, c'est le premier spectacle où j'étais producteur-artiste. Comment j'ai pas été artiste. J'étais producteur. C'était Obispo, Alphonse Guirao et Chouraki qui ont tout fait.
Tout à fait.
J'ai fait quelques petits conseils, mais j'ai fait un bon travail de producteur avec Albert. On a très bien produit. On a fait un conseil, mais je suis pas intervenu. Après, il y a eu Autour d'Emporte-Vent. Là, c'est moins bien passé. Et après, Au Roi Soleil. Là, c'est mon premier essai où j'ai écrit l'idée. Avec Kabel, on a eu l'idée. Où j'ai écrit toute l'histoire, tout le livret. J'ai écrit tous les dialogues avec François Chouquet. J'ai écrit toutes les musiques de transition, quelques chansons. J'ai dessiné le logo. J'ai été maître dans le casting. Première fois que vous pouvez choisir tout seul.
Ouais, t'as été investi de partout.
Quand je me rappelais toute ma vie, quand le casting, quand Emmanuel Moir m'a chanté un coup de soleil. C'est de Cochin. Oui. J'ai eu des frissons partout. J'ai dit, putain, c'est qui ce mec? Cette voix incroyable, cette... Il était beau comme un dieu, toujours beau comme un dieu, encore plus beau aujourd'hui. Et quand Manu m'a chanté ça, j'ai fait waouh, c'est lui Louis XIV. C'est Louis XIV. Et voilà, donc le Roi Soleil, mon premier bébé
politique,
même si j'ai adoré un grand souvenir des Dix Commandements, qui était mon premier bébé, mais là, le Roi Soleil, c'était mon premier bébé. Donc j'irais Roi Soleil, Mozart et Molière. Voilà.
Alors, quelle étape te passionne le plus, justement, dans la création d'un projet? Parce que tu le disais, tu fais énormément de choses, mais si vraiment tu devais choisir une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Ou c'est vraiment
l'écriture du livret, le scénario. Parce que le scénario, je vis avec les personnages. Je vis, vraiment. Parce qu'avant d'écrire un scénario musical, je lis des biographies, des bios, je vois des films, je vais sur Internet, je me renseigne. Pendant 6 mois, je fais que ça. Je deviens meilleur que les historiens. Je peux dire que je suis à égalité qu'un historien, parce que l'historien, il ne peut pas savoir plus que moi, puisque j'ai lu tout ce qu'il a lu.
Donc, tu dirais que c'est ça ta formule secrète,
D'abord, une fois que j'ai lu, je me suis nourri de l'histoire,
oui.
Je vais choisir un point de vue. Qu'est-ce que je vais raconter en 2 heures? Parce qu'on ne peut pas tout raconter.
Oui.
Et moi, c'est toujours ce qui m'intéresse.
Il y a des choix à faire, bien sûr. Bien sûr.
Moi, ce qui m'intéresse toujours, ce n'est pas l'histoire de Molière, ce n'est pas l'histoire du... C'est qu'est-ce qui a fait que cet homme ordinaire est devenu un homme extraordinaire?
Alors, tu le disais, hein, tu travailles souvent avec de jeunes talents. Comment tu les découvres et quelles qualités recherches-tu chez eux? Et très, très important pour les auditeurs et les jeunes qui nous écoutent.
Pour David.
Pour David, mais qui ne fait plus partie de la troupe, visiblement. si un jeune te disait qu'il rêve justement de se lancer dans le spectacle musical, quels conseils essentiels, toi, tu donnerais en tant que professionnel?
Alors, moi, si mes spectacles fonctionnent encore... Et si c'est spectacle,
ça a l'air d'être parti pour quand même. Hein ouais,
c'est que je respecte le dicton qu'il y a si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et j'ai jamais été mégalo. Ça veut dire que j'essaie d'avoir d'humilité en disant je peux pas tout faire tout seul. Beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu fais pas la mise en scène. Pourquoi? Je pourrais faire la mise en scène. J'en suis capable. Mais si je fais la mise en scène, mon spectacle sera mauvais. Pourquoi? Parce que je peux pas écrire le livret. Être patron de la bande musicale, parce qu'il faut du recul. Parce qu'on perd le recul, n'importe qui devient mauvais, à un moment, il ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Donc, si je n'ai pas, moi, avec Molière, pourquoi c'est bien passé? Parce que j'ai eu la chance d'avoir un metteur en scène exceptionnel, Ladislas Chola, qui est en train de mettre en scène la nouvelle version des Misérables au Châtelet, qui est exceptionnel. Et qui, quand j'avais fini, il me dit non, ça va pas. Parce qu'il avait le recul. Et puis moi aussi, j'avais le recul quand il travaillait. J'ai dit ça va pas. Et il faut, c'est les équipes qui fonctionnent. On fait jamais tout seul. Et
il faut une synergie.
Voilà. Et pour rester dans le coup moderne, moi d'abord, j'écoute la musique très moderne. J'écoute la musique avant-gardiste.
Oui.
Je n'écoute pas la musique des années 80.
Mais il fait référence à moi parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et moi, j'ai dit que j'aimais beaucoup. Mais
voilà, moi, j'écoute des trucs très branchés. Donc, j'écoute des radios un peu spé. Par exemple, Le Roi Soleil, c'était caractéristique. Le Roi Soleil, j'ai dit, je vais faire la bande-son en travaillant avec des jeunes compositeurs inconnus. J'ai fait toutes les maisons d'édition qui signaient en disant, qu'est-ce que vous avez comme gens pas connus et nouveaux.
Et tu aimes mettre en lumière justement ceux qui ne sont pas connus.
Voilà, hein. J'adore. J'ai découvert des pépites. J'ai découvert Rod Janois, qui m'avait fait, avec qui on a écrit Tant qu'on rêve encore, et à qui on a écrit ensemble les plus grands tubes de Mozart, là, sa symphonie, T'as tout moi sur tes seins.
Magnifique.
Dans 1989, Ça ira mon amour. Moi, j'ai découvert, c'était un petit jeune qui avait rien fait. Et on m'a fait écouter un truc. J'ai dit, ah, celui-là, il a un truc. Rémi Lacroix.
Oui, tu as ce don vraiment pour...
Thierry Paulus, qui était inconnu, et qui avait les premières notes d'être à la hauteur, qu'il fallait retravailler.
Ah ouais.
Et j'adore travailler avec des jeunes, j'adore parce qu'il faut utiliser, parce que les jeunes...
Et il y a toujours de la nouveauté, en plus.
La nouveauté, il y a de l'énergie, il y a de...
surprise.
La surprise, et donc mélanger cette expérience avec la jeunesse, c'est génial. Donc, le conseil que je donne à des gens qui veulent travailler, d'abord, dans quoi ? Si vous faites de la musique, ben, il faut composer, il faut écrire. Et pour écrire, il faut écouter. Oui. Écouter, analyser, il faut apprendre des harmonies. Il faut écouter ce qui se fait de plus avant-gardiste. Hein, si le résultat, c'est la variété d'aujourd'hui. Mais pour voir enfin la variété qui est dans le coup, il faut être... Et puis, une fois que vous avez fait des chansons, allez voir des maisons d'édition, il y en a plein. Et passer par des maisons d'édition, vous confiez. Hein. Oui. Il y a des grands, Warner Chappell, Universal en a, Sony en a. Et si vous avez du talent, ils seront en cas du talent. Par contre, le conseil que je donne aux jeunes compositeurs, toujours je dis, ne passez pas de temps dans les maquettes, aidez-moi à changer le son de basse. Et la batterie, et des heures, et des heures, et des heures.
Donc plus le naturel, la
c'est
spontanéité est là.
La mélodie, les plus accords, guitare-voix, ça suffit. Vous allez le voir. Si vous voulez faire une maquette, parce qu'il y a du son, soit du son important, ne passez pas trop de temps. Passez plus de temps à trouver la bonne mélodie. Et je dis à ceux qui écrivent des textes, des auteurs, oui, c'est beau les textes, mais un beau texte, un bon auteur, c'est un auteur qui a une, comme dans quelqu'un qui écrit des romans, qui a une écriture originale, des fois.
Savoir se distinguer.
Distinguer avec des punchlines à la Orelsan, des trucs, il faut trouver des trucs originaux. Mm. Il faut qu'il y ait de la personnalité dans l'écriture.
Oui.
Je me permets, vous parliez des jeunes, mais je sais qu'il y a une vingtaine d'années, vous avez fait un spectacle qui s'appelait Les Hors-la-Loi.
Ah.
Vous avez fait travailler des personnes handicapées. Comme j'ai travaillé avec des personnes handicapées, oui. Je trouve ça magnifique parce que à l'époque, c'était pas bankable, hein, pour parler français. Et voilà. Donc je trouve ça magnifique parce que c'est des personnes qu'on voit pas beaucoup, qu'on voyait pas beaucoup en tout cas.
Voilà, avec une dame qui était extraordinaire, dont l'enfant était handicapé, j'ai fait un spectacle qui est un de mes plus beaux spectacles, qui s'appelait Hors-la-Loi. Et le principe, c'est raconter dans une comédie musicale une histoire autour de l'handicap de façon très drôle, très comique.
Un peu comme le film d'Artus.
Alors, c'est plutôt Artus qui a fait un peu comme...
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire,
C'est parce que c'est surprenant, c'est le hasard, mais c'est la même histoire. C'est deux voyous qui sont poursuivis par la police après un hold-up et qui, par mégarde, atterrissent dans un centre handicapé.
Ouais.
Et il y a un quiproquo, eux, ils pensent que c'est les nouveaux animateurs du centre handicapé. Et eux profitent du quiproquo pour se cacher de la police. Et pensent que le handicap est quelque chose de contagieux. Et il y a une histoire d'amour. Et c'est vrai que le film d'Arthur ressemble beaucoup. C'est à peu près la même histoire.
Ouais.
Hein, c'est la même histoire.
C'est la même histoire.
On va l'attaquer.
Je vais pas attaquer, mais je trouve ça étrange. Ouais. Ça fait fond 2003, mais c'est la même histoire à peu près. On va pas raconter de la même manière. Mm. Et c'était superbe. Mais à l'époque, il y avait un a priori. Et malgré qu'on nous a aidés, hein, je me rappelle François Pinault nous avait aidés en nous donnant le théâtre Marigny gratuit. Grand monsieur, la famille Pinault, Bessène et tout. Et malgré ça, ça n'a pas très bien marché. Mm. Parce que le principe, c'était de mettre des artistes handicapés sur scène qui jouaient leur propre rôle. Mm. Ceux qui n'étaient pas handicapés étaient sur scène. Donc il y avait la vraie vie. Et ça rebutait des personnes de voir un spectacle de rôle avec des personnes handicapées sur scène.
Bien sûr.
Et c'était pourtant fabuleux. Mm. Voilà, merci pour cette
question. C'est nous qui vous remercions.
C'était on avait ça ou à l'association, on vous a fait. Bien sûr, bénévolement, travailler 2 ans de ma vie bénévolement parce que ça me tenait à cœur pour des raisons personnelles, parce que je suis très sensible à ça. Voilà. le regard sur les autres, la différence et le regard sur le handicap, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que les handicapés se sentent différents. Parce qu'à cause du regard des autres. C'est le regard des autres qui le fait sentir différent.
C'est vrai.
Donc si on apprenait à regarder
différemment,
l'handicapé se sentirait très intégré dans notre société.
Bien sûr.
Voilà. Oui. Merci
en tout cas,
merci
beaucoup pour tous ces partages.
Merci infiniment.
Vraiment,
c'est très
intéressant. Merci beaucoup, les filles.
Merci, Adore. Merci pour toutes ces informations.
Merci à cette super équipe et longue vie à Angora Radio, à Angora Côte d'Azur, parce que il y a vraiment du dynamisme. C'est des bénévoles et c'est bravo pour ce que vous faites et vous le faites avec beaucoup de professionnalisme.
Eh ben c'est
merci
pas fini, on te remercie pour tes gentils mots.
Merci beaucoup.
Alors, avant de retrouver mon instant décalé, on fait une petite pause avec la troupe du Roi Soleil et le titre prend qu'on rêve encore. Restez à l'écoute, on revient tout de suite.
Ce soir, vous écoutez les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Qu'une histoire commence.
On a tous en mémoire un reste au fond de soi d'enfance. On part pour la vie sans
encore que nos yeux.
ce soir.
Dans Les Copains d'abord. Thierry, dans l'instant décalé.
Mon cher Thierry, une fois n'est pas coutume, je devine une nouvelle fois ta grande fierté de recevoir un invité tout à fait exceptionnel dans notre émission, en la personne de Dov Akin.
Absolument Léa, et je ne te cache pas que lorsque Dov a répondu favorablement à ton invitation, j'ai voulu crâner un petit peu, hein, vous me connaissez. J'ai dit à tout mon entourage au mois de novembre, c'est Kiki qu'on reçoit aux copains d'abord, Dov Akin, tout simplement. Tout le monde m'a dit, mais tu t'emmerdes pas toi, ben, comme si dans la vie j'avais l'habitude de m'emmerder, hein, vous me connaissez. Donc par expérience, je sais que demain je vais recevoir moult messages pour me demander alors Dov comment il est. Voulant mettre un petit peu de poésie, je leur dirais Dov, il est comme la crème lavante, doux et onctueux. Alors, je voudrais quand même prévenir hein, les auditeurs premier degré, si vous avez des problèmes de peau, genre la peau sèche, et que vous croisez un jour Dov dans la rue, inutile de vous frotter à lui, hein, car Dov ne contient pas d'agent nettoyant sans sulfate, d'ailleurs, ni d'agent nettoyant tout court. De même, si vous souffrez d'une transpiration forte et que vous sentez le poney Shetland, passez votre chemin, car notre Dov à nous n'est pas non plus équipé d'anti-sudorifique. Hein. Des précisions que je souhaitais apporter pour protéger l'intégrité physique de notre invité et lui épargner ainsi quelques désagréments.
Notre invité a un parcours aussi exceptionnel qu'incroyable et une notoriété en France qu'il a acquis au travers de ses différents projets, tout aussi ambitieux les uns que les autres.
Alors on l'a vu tout à l'heure lors de l'interview, il a créé un institut de préparation aux grandes écoles, il a été directeur général à TF1 International, il a même bossé avec Léon Zitrone sur une collection de vidéos commentant les grands événements du XXe siècle, à l'exception de Ma Naissance, un oubli très certainement. Juré de la nouvelle star, scénariste et créateur-producteur de petites comédies musicales qui n'ont pas su rencontrer leur public, hein, comme les 10 commandements, certainement l'un de ses plus gros échecs. Hein. Alors moi j'ai envie de dire, alors Dov, comment ça va le boulard hein? Eh bien même pas, c'est bien ça le pire en fait, malgré le succès, Dov est resté le même, simple, accessible, ce qui fait de lui un invité extrêmement énervant en fait. Hein. Mais si Dov apparaît comme l'homme qui transforme le plomb en or, je suis au regret de vous dire qu'il n'est pas tout à fait complet. Ah. En effet, notre invité a des failles, des lacunes tout comme moi. Il joue pas de l'harmonica, hein, tout comme moi. Il est nul en GRS, hein, gymnastique, rythmique et sportive, comme moi. Il ne parle toujours pas le mandarin et n'est jamais allé dans l'espace non plus. Tout comme moi, bref, des échecs cuisants qui me font dire que nos parcours ne sont finalement pas si éloignés que ça. Si on met de côté l'intégralité de son CV, bien entendu.
Alors Thierry, on a pu le constater en France, tout le monde est complètement dingue hein, des comédies musicales, ouais. À commencer par la gente féminine. Il faut bien l'avouer parce que bien pour nous les femmes, les comédies musicales, c'est romantique.
Alors Dov, au nom de tous les hommes, je ne te remercie pas de nous avoir fait vivre l'enfer pendant presque 25 ans. Hein. Quand Daniel Lévy chantait l'envie d'aimer, nous à la maison, on l'entendait tous les 4 matins. Daniel, il est tellement romantique dans les 10 commandements que j'aurais pu le suivre dans le désert sans la moindre goutte d'eau. Et nous, quand on leur propose d'aller voir un match de foot au stade, il n'y a plus personne. Emmanuel Moir et Christophe Maé dans Le Roi Soleil, mesdames, vous étiez juste incontrôlables et hystériques. Hein. Pour Michelangelo Leconte et Florent Mode dans Mozart l'Opéra Rock, c'était une vraie boucherie également. Bref, grâce à toi, on en a vraiment chié, Dom.
Ah, c'est vrai que c'est le concept. Quand je vois un homme, je dis ah, sympa, un homme. Ah non, c'est ma copine qui m'a créé.
Alors on connaît toutes les femmes, on connaît tous les femmes pour leur tendance à tout exagérer et à tout idéaliser, à s'embellir pour
s'emballer.
Oui, mais à s'embellir aussi. Hein.
Ça, un petit peu comme tu veux dans ma
ouais,
chronique.
Exactement. Et je crois savoir que tu voulais nous en délivrer quelques exemples justement.
Alors déjà un grand merci pour cette franchise et ce recul que tu as pour tes semblables. Mais c'est vrai que lorsqu'on vous voit baver devant la 25e rediffusion de Pretty Woman, ouais. En nous sortant que c'est romantique, excusez-nous de nous poser des questions sur votre santé mentale.
Ouais,
hein.
Ouais.
Pour rappel, c'est quand même un film qui raconte le parcours épique d'une prostituée mini-jupe à la moulasse et qui porte les bottes de Francis Lalanne. Hein. Bon, alors, ok, elle trouve le grand amour sur Hollywood Boulevard avec un client milliardaire. Ok, c'est pas une raison pour nous humilier, bordel. Hein. Et puis, vous avez ce don, mesdames, pour vous transposer depuis votre canapé devant ce nanar. Hein. Et on l'a bien compris dans votre imaginaire débordant, vous êtes Julia Roberts et Richard, c'est tout, sauf votre mec. Hein. Et nous, les hommes, on a pour mission de vous faire atterrir. Thierry, je te conseille pas d'arpenter le trottoir de la rue de France à Nice avec ta jupe qui te boudine et tes bottes de jockey en espérant de croiser un club de Richard Gere, hein, parce que ça va être très long, ma chérie. Très, très long. C'est comme ce film à la noix, 50 nuances de gris. Hein, ah. Encore un film qui nous gonfle, nous les mecs, hein, que vous trouvez super romantique.
Hein. Grave.
Évidemment, c'est plus sexy quand t'as un mec en costard propriétaire d'un loft new-yorkais hein, qui t'emmène en hélico entre deux séances, de bondage. La même scène avec Jean-Pierre, le gars sympa de Castorama qui travaille en Twingo avec une bâche en plastique à l'arrière
et du scotch isolant pour te proposer un atelier bricolage dans son HLM, là, c'est plus du romantisme. Pour vous, c'est direct un épisode de New York Unity spécial. Hein, vous êtes d'accord?
Moi, ma compagne, comme elle aime beaucoup le thé, j'ai fait 50 nuances d'Earl Grey.
Et il est vrai, hein, Thierry, que si le prince charmant pouvait s'apparenter à du folklore et du romantisme exacerbé, chez les hommes, le romantisme se manifeste souvent de manière inattendue.
Bah, le romantisme chez nous, c'est les bonnes intentions. Les attentions qui comptent. Réparer la porte du garage, c'est très une important. Déclaration d'amour. Le « j'ai changé l'ampoule du couloir, j'ai nettoyé la gouttière », c'est notre « je t'aime » à nous. Pour nous, le romantisme, c'est de l'huile de coude et des coups de tournevis. Et quand on regarde des films pornographiques jusqu'au bout, chose que vous ne supportez pas, c'est simplement ça pour dépend. Voir s'ils se marient à la fin. Là aussi, c'est du romantisme. Et puis, il faut dire que vous n'êtes pas les dernières hein, pour nous décourager dans nos élans. Vous avez toujours ce don pour nous couper l'herbe sous le pied. Hein. On vous propose d'aller faire une randonnée main dans la main et sous prétexte que vous vous retrouvez à grimper un sentier de chèvre à quatre pattes et chaussures pleines de boue et que vous gueule dessus parce que vous n'allez pas assez vite, ça passe pas. Hein. C'est pas toi qui m'avais dit que t'aimais la nature?
Oui, oui, alors moi j'aime la nature, mais pas les profs d'orientation de Koh-Lanta, Thierry, hein. Franchement.
Ok, voilà, hein. On vous propose un week-end atypique à la montagne, sous la neige, avec cabane isolée au fond des bois, et on vous entend dire.
Si c'est pas l'amour qui me tue ce soir, ce sera un psychopathe.
Dis-moi, t'as toujours pas fait théâtre.
Mais à cette heure-ci, j'ai du mal. Si j'avais vraiment voulu mourir, Thierry, j'aurais bien aimé choisir juste comment, en fait.
Ben, c'est bien ce que je disais, les femmes sont jamais contentes.
Et puis, pour terminer cette magnifique chronique, Thierry, tu souhaites terminer par quelques brèves.
Alors, comment le budget a pu déraper de 50 milliards sans que personne ne s'aperçoive de rien, hein? C'est toujours la question que tout le monde se pose. Notre ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a été interrogé. Il n'a pas dit grand-chose, il n'a rien vu. Hein, Bruno, c'est Gilbert Montagnier, inspecteur d'auto-école, hein, celui qu'on aurait aimé tous avoir le jour de l'examen. Il y a bien eu ce passage au feu rouge, cette petite percussion avec un piéton et ce petit dépassement par la droite, mais bon, tout est ok, j'ai rien vu. La COP29 qui a eu lieu à Bakou en Azerbaïdjan a tenu toutes ses promesses, on est tous contents. En effet, la seule chose sur laquelle les pays participants sont tombés d'accord, c'est sur la date de la prochaine COP30. Un grand merci à tous. Et la petite dernière, Orlando, le frère de Dalila, dont on parlait tout à l'heure, a confirmé une rumeur vieille de 40 ans. Sa sœur était bien la maîtresse de François Mitterrand. Mmh. Alors ces deux-là ne se regardaient pas dans le blanc des yeux. L'histoire ne nous dira pas si l'ancien président avait choisi la chanteuse par rapport à son strabisme. En effet, ça devait être quand même bien pratique de pratiquer l'adultère avec Dalida, puisqu'elle pouvait surveiller la porte et la fenêtre en même temps. L'instant décalé, c'est terminé. Vive le strabisme et merci d'avoir écouté.
Bravo,
Thierry. Excellent. Merci à tous. Merci. Et on retrouve le Pourquoi pas de Léa juste après. A tout de suite.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
On retrouve tout de suite notre Léa à nous avec son Pourquoi pas.
Ce soir, comme Dove et notre invité, on plonge évidemment dans l'univers des comédies musicales pour en apprendre davantage sur les grands personnages historiques qui les ont inspirés, à commencer par les 10 commandements. Comme le disait la légende, il n'y a pas de désert infranchissable pour celui qui marche avec foi. À votre avis, quel handicap Moïse avait-il? Il était bègue ou il avait le vertige?
Alors, j'irais bien qu'il me fait rire.
Bègue.
Oui, il était bègue, exactement. Voilà, il avait des problèmes d'élocution et il faisait d'ailleurs appel à l'un de ses frères, Aaron, pour parler à sa place.
Comme il y a des vies, hein. Ouais, il fait ça sera nous.
Merci de partager les petits secrets des coulisses.
Ça c'est génial, merci Dove. Selon vous, pourquoi Louis XIV portait-il des talons hauts? Pour paraître plus grand et affirmer son statut, pour éviter l'arthrite et soulager les douleurs.
La une,
paraître grand. Et...
L'arthrite.
Bon, Dove aura forcément toutes les bonnes réponses. Bravo. Et comme disait le roi Soleil, l'État c'est moi, tu le disais tout à l'heure David, mais à la fin c'était plutôt l'arthrite c'est moi. Je sais, je vais rien en faire. Pourquoi les courtisanes portait-elle un mouchoir parfumé devant le roi? Parce qu'il il avait une haleine de chacal ou parce que c'était simplement une tendance chic à l'époque?
Alors, il était connu pour avoir une haleine de chacal.
Ouais.
C'est chic.
Tendance chic, moi j'ai
chic, chic, moi chic. Et bien, mauvaise réponse de Dove.
Excusez-moi, j'ai pas.
Non, mais à l'époque,
j'ai jamais fait la bise à Louis XIV.
Oui. L'hygiène bucco-dentaire était déplorable à la fin. Hein.
Et dans les livres d'histoire, ça paraît pour pas le dehors.
Non, mais parce que je pense que c'est pas intéressant dans le fond.
Donc, on remercie d'avoir mis dans la chronique.
Alors, c'est vrai que c'est plutôt que la fin de sa vie,
oui.
Il y a des problèmes dentaires terribles.
Il avait un trou dans le palais aussi.
Un trou de palais, un jour, parce qu'on lui a enlevé les dents et ça a arraché le palais.
Avec, ça n'aide pas pour la laine.
Le dentiste n'était pas bon à l'époque.
Et
il y avait le blues du dentiste.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il avait donc...
C'était vers la fin de sa vie.
Oui. C'était vers la fin de sa vie, exactement. Quelle était la particularité des toilettes de Louis XIV? Elles étaient fabriquées en or et en argent et décorées de gravures royales, où elles étaient équipées de paillettes et de plumes.
Paillettes et plumes.
Et non, ça c'était sa coiffe, Dove.
D'ailleurs, parfois il faisait dans sa coiffe. C'est parce qu'il y avait le...
Je parlais des paillettes et des plumes.
Moi j'ai en or, non?
Non. Alors, non, mais c'était les toilettes en or, voilà, de Louis XIV.
Oui, parce que, et d'ailleurs, c'était un privilège d'assister au roi.
Exactement. On le regardait faire pipi.
C'était un privilège.
Tout à l'heure, je me retiens, donc on se voit après. Hein.
Parlons à présent de celui qui disait que la musique est un art de l'âme, elle doit être comprise pour être ressentie. Je parle bien sûr de...
Lully.
Mozart. Oui. Quelle autre passion surprenante avait-il en dehors de la musique? Les jeux de société, la cuisine, les oiseaux, ou écrire des lettres, les voyages, le théâtre et la danse?
Écrire des lettres.
Eh bien, en fait, c'était tout. Voilà. Mozart, il aimait tout. Il avait d'ailleurs un petit canari, parce qu'il avait une passion pour les oiseaux, qui s'appelait Luna, et il adorait écrire effectivement des lettres pleines de grossièreté et de sarcasme, notamment à sa sœur.
C'est pas vrai,
il avait un oiseau d'ailleurs.
Il avait un canari, mais
une anerle. Il écrivait un anerle beaucoup. Sa sœur était sa meilleure amie, ouais.
Quel était l'un des aspects surprenants de la santé de Mozart à la fin de sa vie? Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Il souffrait de troubles mentaux et s'est fait empoisonner, où il est devenu obèse avant de succomber à une maladie.
Obèse?
Non.
Eh bien, si. Mozart a pris du poids vers la fin de sa vie, ce qui a contribué à sa mauvaise santé, avant de mourir jeune à 35 ans. Tu me diras, Dov, si j'ai raison ou pas.
C'est Wikipédia, c'est pour ça.
Bien que la théorie du poison ait longtemps circulé, mais c'était plus une rumeur qu'autre chose.
Oui, Salieri l'a empoisonné par jalousie. Non, mais il tombait malade, Mozart aussi.
Oui. Il a succombé à une maladie.
Obèse, c'est pas dans mon spectacle, donc ça, je sais pas.
Quand il est beau. Le verre à moitié plein, à moitié
plein. Je suis contente de t'apprendre quelque chose, Dov. Je ne sais pas si c'est vrai,
Obèse, j'avais jamais entendu.
Mais en fait, au début de sa maladie, voilà, il a commencé à prendre du poids, et effectivement, à la fin de sa maladie,
c'est vrai que j'ai vu récemment Michel-Angelo en Chine, il a pris du poids.
Voilà. Pour la suite, si je vous dis 1m89, 1789, les amants de la Bastille, vous me répondez bien évidemment Louis XVI, exactement, qui était un poison pour lui-même et qui disait « Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas eu de chance ». Effectivement, pour tout un tas de raisons, mais Louis XVI était surnommé le roi serrurier en raison de sa passion pour ouvrir les portes de son cœur, lui qui préférait la chasse et la solitude, ou son intérêt pour la mécanique et la serrurerie.
Son intérêt pour la serrurerie, c'est connu.
Et il passait des heures à fabriquer des clés, à fabriquer, il adorait ça.
Il a écrit pour Gérard
Dormant. Il faut savoir que Louis XVI, il ne voulait pas être roi. Oui. Dans la ligne des descendants, c'était le dernier à être roi. Mais ils sont tous morts.
Ils sont tous morts. C'est vrai.
C'est le dernier.
Parlons de sa femme, Marie-Antoinette. Selon une légende, elle avait un petit panier secret sous ses robes. Que cachait-elle dedans? Des brioches et des bijoux précieux, ou un petit panier de fromage?
Je vais dire des capotes, mais ça n'a rien à voir.
Mais c'est pas dans les cuisines. Des capotes,
c'est pas dans la communauté.
Des brioches, toujours une petite faim.
Eh bien, selon certaines rumeurs, pour échapper à la surveillance de ses courtisans et des ennemis politiques, elle cachait un fromage, soi-disant de brie, sous ses vêtements, pour que personne ne l'approche. Le brie, il faut le savoir, est un fromage à pâte molle, souvent appelé le roi des fromages.
C'est comme ça qu'on dit que la moule sent mauvais après. Oui, ça part de là, quoi.
Merci pour ce complément d'information.
Ouais, merci Carole, c'était très important. Mais je suis contente parce que Dov y rigole. Et on termine enfin ce pourquoi pas avec...
Il est poli.
On termine avec ce pourquoi pas de Léa, avec celui qui disait « La comédie est une sorte de miroir où l'on nous montre les vices et les faiblesses des hommes. » Molière, bien sûr.
Bien, oui.
Pourquoi Molière ne disait-il jamais adieu à ses comédiens? Est-ce qu'il pensait que cela annonçait une mort imminente ou des catastrophes? Ou est-ce qu'il croyait que dire adieu risquait de briser la magie du théâtre? À votre avis,
la mort.
La mort. La magie du théâtre, non?
Oui, c'est la une. Il pensait que cela annonçait une mort imminente ou des catastrophes.
Un petit peu
tout simplement. Voilà, exactement. Voilà, le pourquoi pas de Léa est terminé. Merci à toi, Dov, de nous offrir ces spectacles magnifiques où, comme le dit si bien la citation, la comédie musicale est l'art où les émotions prennent une voix et dansent sous la lumière. Grâce à toi, tu fais vivre cette magie à tous ceux qui ont la chance de les découvrir.
Bravo!
Merci beaucoup!
Que de louanges! Et là, je vais rentrer, ma femme va m'insulter. Quoi, t'as pas fait la vaisselle?
T'as encore mis ta chemise par terre?
On a dit que les femmes, elles ont droit à tout maintenant.
C'est parfait.
Alors, on arrive donc au terme de cette émission. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu de plaisir à vous distraire. Je voudrais tout d'abord remercier notre invité de ce soir, Dov Attia, qui nous a fait l'immense plaisir de nous accompagner durant cette petite heure.
Merci beaucoup.
Nous te souhaitons le meilleur pour la suite et pour absolument tout. Évidemment, on va guetter la suite de tes aventures scéniques.
Ouais.
Je remercie également toute la team, Carole, Léa, David, mais également Nancy, ciao, notre réalisatrice, qui est derrière les manettes de cette émission, sans oublier notre Karine, qui est à côté,
oui,
et qui a rendu possible cette belle rencontre avec Doc. Donc merci Karine.
Merci.
Dans l'enseignement aussi.
Ouais. On remercie évidemment nos fidèles auditeurs, auditrices, et tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. On vous souhaite une excellente fin de soirée. On vous donne rendez-vous dès le mois de janvier prochain pour une toute nouvelle émission Les Copains d'abord. D'ici là, profitez des fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez et prenez bien soin de vous.
Salut.
C'était Les Copains d'abord, présenté par Thierry. Réalisé par Nancy Zottier pour Agora Côte d'Azur. Émission à retrouver en podcast sur agoracôtedazur.fr.